106.9 Mauricie Sport.
Que la Mauricie se lève.
Voici Martin McGuire.
Et là, Patrick Roy, il ne peut rien. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Il n'y a aucune défense devant lui. On l'a laissé à lui-même et là, on va le retirer en faveur de Pat Jablonski. Et là, Mario, commence. C'est le métier d'entraîneur qui rentre pour le vrai, je crois.
Oui,
tu
monsieur.
Peux te l'assurer.
Bon, pardon. Donc, Fyodorov, son 12e sur une passe de Larionov à 11 minutes 57. T'as raison quand tu dis que c'est le métier d'entraîneur qui rentre. Et t'as vu le coup d'œil qu'il a jeté à Rouen en passant.
Tu questionnes chacune de tes décisions. Tu te demandes comment se fait-il qu'on perd 9-1. J'ai pourtant bien préparé mon équipe. On avait un bon plan de match bien établi. Qu'est-ce qui fait que tout s'est écrasé? Oups!
Oh, on voit qu'il est allé s'adresser au président Corey.
Oui.
Oh. Alors voilà. Donc, l'extrait qui me fait mal encore, 25 ans plus tard. Je m'en suis à peine remise. Pour dire que Patrick Roy, moi, c'était mon homme. Qu'est-ce que vous voulez? Salut, Martin. Est-ce que Martin est là? Oh, Martin, je m'excuse. Malheureusement, on va devoir... Non, c'est ça, ça coupe énormément, Martin, on s'en excuse, là, on t'entend à peu près pas, donc Serge, juste, on va essayer de rétablir la communication, mais c'est ça, là, visiblement, il y a un petit problème de réseau cellulaire, alors cet extrait-là, je sais pas si c'est pour vous, puis il y a peut-être des amateurs des Nordiques aussi, là. Je sais qu'il y en a en Mauricie, centre du Québec, alors peut-être que vous étiez content à l'époque de voir Patrick Roy quitter. Mais de mon côté, comme puis je pense que je suis pas la seule, hein, comme partisane du Canadien, c'est un moment qu'on aimerait oublier.
Ben, c'est parce que c'est toute l'histoire qui a entouré ça, Catherine.
Ben, oui.
T'es assis devant ton téléviseur, puis là, tu vois le Canadien qui est en train de se faire planter. Patrick Roy qui sort finalement seulement en deuxième période de la rencontre, alors que c'est 9-1 en faveur de Détroit. Le regard de Mario Tremblay lorsque Roy s'amène au banc. Roy qui se rend au bout du banc pour finalement revirer de bord. Puis on sait que dans ces années-là, le président de l'équipe, Ronald Coré, était toujours assis derrière le banc du Canadien. Puis c'est à ce moment-là, quand tout le monde a vu ça, c'était dramatique. Là, de voir cette scène-là.
Clairement! Tout à fait. Est-ce que Martin est là?
Ben oui.
OK, salut Martin.
Rebonjour Catherine.
Rebonjour.
Tu sais que ce dossier-là, j'ai été amené à le fouiller un peu. Ben, d'abord, quand la transaction est arrivée le 6, je me souviens d'avoir parlé au père de Jocelyn Thibault dans la nuit qui avait précédé l'échange. Mm-hmm. Je me suis excusé après de les avoir réveillés avec le téléphone, là. Puis M. Thibault m'avait dit à ce moment-là, il dit, tu sais que je peux pas te confirmer ce qui est arrivé, là.
OK, bon. alors ça confirmait sans le confirmer.
Alors, ça confirmait sans confirmer, mais la chose la plus intéressante, en tout cas, qui m'a été donnée de découvrir dans les moments, les mois qui ont suivi, c'est que une station de télévision de Denver, mm-hmm, avait passé une commande au réseau des sports pour interviewer la mère de Patrick Roy. Et j'avais servi de journaliste hors champ pour poser des questions à la mère de Patrick. Et Patrick était proche de sa mère. Et je pense qu'il l'a été encore pendant plusieurs années après. Là, c'était quelqu'un de très significatif pour lui. La fougue que Patrick avait venait principalement de sa mère parce qu'il fallait la rencontrer pour le réaliser. Là, c'était une athlète, sa mère, c'était une nageuse. Okay. Et je me souviens que la mère de Patrick m'avait raconté deux choses. Premièrement, elle m'a dit que le lendemain de ce que vous avez fait réentendre, Patrick était prêt à aller au forum pour s'excuser de ce qui s'était passé.
Ah, ouais.
Sauf que on n'aurait pas voulu entendre ses excuses. Les dirigeants de l'époque étaient décidés à l'échanger. Donc, pour eux, c'était terminé. Ils avaient tourné la page, principalement l'entraîneur Mario Tremblay.
Oh.
L'autre chose que la mère de Patrick m'avait appris dans cette entrevue qui avait duré plus d'une trentaine de minutes, écoute, je pense que la station de Denver et finalement le réseau des sports qui a utilisé le matériel après, là, ils pensaient jamais en avoir autant, là. Et ce qu'elle m'avait raconté, la mère de Patrick, c'est que, tu te souviens, il y a quelques années avant peut-être, là, quand Michel Dion, le gardien de but des Nordiques, avait quitté le filet, et que Michel Bergeron était l'entraîneur-chef des Nordiques à ce moment-là. Dion avait quitté le filet durant un match parce qu'il était en train de se faire planter, puis l'entraîneur le laissait dans le filet. Et quand il est sorti de la glace, Michel Bergeron avait dit à Michel Dion, tu joueras plus jamais pour les Nordiques. Alors, qui était dans les estrades ce soir-là? Le jeune Patrick Roy, qui était alors au début de l'adolescence avec ses parents, qui avaient des billets de saison pour les Nordiques. Et à ce moment-là, la mère de Patrick, dans l'entrevue, me raconte que au moment où ça arrive, Patrick, qui est un très jeune gardien de but, dit à sa mère, « Si un jour un entraîneur me fait ça, je ne jouerai plus pour lui. »
Oh, es-tu sérieux? Ah oui, OK, c'est quand même fascinant ce que tu nous racontes là, je ne savais pas ça.
Écoute, c'est vraiment fascinant. Moi, je te dirais que dans l'humble carrière que j'ai fait jusqu'à maintenant, là, c'est probablement une des entrevues les plus intéressantes que j'ai réalisées.
J'en doute pas.
Parce que ça venait donner un éclairage sur une situation qui, à l'époque, il y avait beaucoup de tabous autour de ça, il y avait beaucoup de non-dits, il y avait quelque chose qu'on n'arrivait pas à comprendre. Comment se fait-il qu'on n'avait pas tenté de faire la paix avec Patrick Roy? Mais je pense qu'à ce moment-là, l'ego des gens qui dirigeaient le club, de M. Corré jusqu'à Mario Tremblay, l'ego avait été vraiment froissé par le geste de Patrick. Et c'est un peu pour ça qu'on l'a échangé. Mais tu sais, honnêtement, Catherine, là, dans toute l'histoire du club, ça a été le pire échange.
Ah, c'est clairement, écoute, je veux dire, c'est une transaction, je cherche le bon terme, tant qu'à moi, c'était minable comme transaction. Là.
Écoute, tu sais, c'est parce que dans ce genre de transaction-là, là, c'est très difficile d'obtenir l'équivalent de ce que tu donnes.
Oui, ben oui.
Et tu sais, dans ce genre de transaction-là où tu es un peu, excuse l'expression, pogné, pour faire un échange, ou tu te places dans une situation où tu n'as plus le choix de faire un échange, c'est sûr que c'est difficile. Et dans l'histoire moderne du hockey, là, bon, les plus vieux penseront peut-être à l'échange de Phil Esposito ou l'échange de Cam Neely, mais pour moi, le seul échange qui a vraiment valu la peine dans une situation où tu es un peu pris, là, c'est celle que Pierre Pagé avait fait avec Eric Lindros.
C'est
vraiment le seul échange où l'équipe qui était prise pour échanger un joueur vedette, un joueur important, a reçu en retour une compensation qui lui a permis, pas d'oublier, mais d'avancer quand même.
Oui, c'est clair. Rappelle-nous, donc, dans la transaction, donc le Canadien envoyait Patrick Roy et Mike Keane au Colorado en retour de Jocelyn
Mike
Thibault.
Keane en plus.
Ben, en plus.
En plus. En retour, le Canadien a eu, entre autres, Jocelyn Thibault.
Oui.
Ils ont eu également Andrei Kovalenko.
Oui.
Et là, il va falloir que tu me rafraîchisses la mémoire parce que j'étais pas près de mes notes ce matin. J'étais pas préparé à te parler de ça. Là.
Non, il n'y a pas de problème. C'est Martin Rudzinski, je pense, qui était dans...
Martin Rudzinski, merci beaucoup.
C'est exact. Ouais.
Et tu sais qu'après, évidemment, on a su beaucoup de choses concernant d'abord cette transaction-là. C'est parce que l'Avalanche avait deux gardiens québécois. Ouais. Ils avaient Stéphane Fizet et Jocelyn Thibault. Et Réjean Houle avait choisi Jocelyn Thibault, ce qui n'était pas un mauvais choix à l'époque, là, tu sais, parce que Stéphane Fizet avait un peu plus d'années de derrière la cravate. Tu sais, à l'époque, on se demandait, Stéphane, est-ce que c'était un numéro un incontesté dans la Ligue nationale ou si c'était un numéro 2 double A, là, si on veut, là. Ouais. Tu sais, à un moment donné, on se posait la question, là, au Colorado même, on se posait la question. Alors, on a choisi le plus jeune sur celui avec qui il y avait quand même des promesses intéressantes. Mais à la décharge de Jocelyn ou de Stéphane, si Stéphane était arrivé dans cette transaction-là, là, tu sais, chausser les jambières de Patrick Roy, là, c'était épouvantable.
Tu veux pas arriver après Patrick, là.
Ben non. Tu sais, ça aurait pris, là, dans l'échange, là, un gardien de but expérimenté comme Belfort ou Richter à l'époque, là.
Ouais.
Là, on aurait pu, tu sais, confier un rôle comme ça à un gars qui arrive, qui premièrement, qui n'était pas un Québécois et qui serait arrivé avec un statut vraiment de numéro un incontesté. Peut-être que le Canadien aurait pu s'en sauver. Mais, tu sais, imagine, là, t'es un jeune gardien de but québécois, tu t'en viens à Montréal dans une transaction controversée. Puis là, il faut que tu amènes l'équipe à la victoire. Tu sais, c'était couru d'avance, que c'était pas pour marcher. Là.
Ah, le contexte était très difficile pour lui. Bon, Martin, je m'en excuse, le temps file un petit peu, mais je veux qu'on prenne le temps quand même de parler de la Ligue nationale. Tu nous le disais la semaine dernière, il faut que ça se règle avant la fin de semaine, sinon oubliez ça le 1er janvier. Fait qu'on oublie ça le 1er janvier. Là.
Ben écoute, c'est vers ce qu'on se dirige. Là. Est-ce que finalement on va se contenter d'une saison de 48 matchs? C'est probablement ce qui va arriver. Moi, j'ai eu des informations là dans la dernière semaine qu'il a continué à avoir des pourparlers, mais sur une base moins officielle que les pourparlers qui ont eu cours à la mi-novembre. Là. Est-ce que ça a permis d'avancer? Des fois, ces petites discussions de coulisses là avec deux ou trois acteurs différents, des fois, ça permet de faire débloquer le dossier. En tout cas, on verra bien. Il y a une chose qui est sûre, Catherine, c'est que les enjeux n'ont pas changé. Moi, je pense que ni les joueurs, malgré une coupe de salaire de 46%, ni les propriétaires ont intérêt à ce que cette négociation-là arrive dans un cul-de-sac puis qu'on l'échappe. C'est trop important que la Ligue nationale puisse reprendre ses activités en janvier. À ce moment-là, est-ce que ce sera plus tard en janvier? Ben, peut-être qu'en bout de ligne, ça fera plaisir aux joueurs, là, parce que je sais que les joueurs, là, c'est un camp d'entraînement en plein milieu du temps des fêtes, ça leur tentait pas trop. Là.
J'imagine.
C'était pas une idée qui était bien, bien populaire au sein de l'association des joueurs. Alors peut-être que par ce bout-là, l'association des joueurs aura gagné un point, c'est-à-dire que ça arrivera plus tard en janvier. Mais vraiment, Catherine, ils peuvent pas se permettre de ne pas s'entendre. Puis vraiment, là, ça enverrait tellement un message négatif à la population quand on vit actuellement une situation aussi pénible économiquement parlant, découlée de la pandémie, là, que ces deux groupes-là puissent pas trouver un terrain d'entente. Je pense pas que l'association des joueurs et les propriétaires sortiraient gagnants d'une histoire comme ça.
Non. Donc, Martin, en 30 secondes, t'attends-tu à une annonce cette semaine?
Écoute, c'est difficile à croire parce que honnêtement, les gens que je consultais là, à la mi-novembre se disaient qu'au 1er décembre, ce serait réglé. Et ces gens-là ont eu tort, malheureusement. Peut-être qu'il est arrivé des choses qu'ils n'avaient pas prévues. Là. Alors, c'est difficile pour moi de t'avancer une date. Mais honnêtement, Catherine, là, s'ils veulent jouer à un moment donné, il va falloir que des choses concrètes se passent et il va falloir qu'ils se retrouvent sur le même terrain à quelque part.
Ça, c'est clair. Bon, ben Martin, on se reparle la semaine prochaine. On aura bien sûr d'autres sujets, puis on verra comment tout ça a évolué d'ici mercredi prochain.
Certainement, Catherine. Bonne journée.
Salut, bye-bye, Martin McGuire. Donc, les mercredis 8h35, et bien sûr, dans une optique où les choses avanceraient plus rapidement, on lui reparle sans faute.